Bonsoir. Situation sécuritaire en RDC. On enregistre de plus en plus des incursions des groupes armés dans plusieurs coins du pays. Au Nord Kivu, attaque ce mercredi matin de la ville de Butembo par un groupe Mai Mai. Bilan, plusieurs assaillants tués et d'autres capturés. En Ituri, 4 militaires dont 3 officiers ont été tués par des assaillants ce même mercredi matin dans le territoire de Djougou. Au Sud Kivu, la présence des ex-combattants FDLR est signalée dans le territoire de Walungu. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 8 mai 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Mohamed Boulé, sénateur élu de la province du Bas-Uele. Il est vice-ministre honoraire de la Défense et général à la retraite. Monsieur le sénateur, bonsoir.
Bonsoir.
Julien Paluku, député national, élu de Lubero au Nord Kivu. Il est ancien gouverneur de cette province. Monsieur Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kasai à travers la République et le monde.
Merci. Emmanuel Kiabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Monsieur Kiabengele, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrick Mbouli qui dit ceci: cette situation n'est autre que l'absence de l'autorité de l'État. Il n'y a plus de mots pour décrire la situation sécuritaire du pays qui est toujours déplorable. Merci de nous suivre à Bukavu dans la province du Sud Kivu sur la 95.3, et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nord Kivu, incursion tôt ce matin d'un groupe des miliciens Mai Mai à Butembo, actuel foyer de l'épidémie à virus Ebola. Le maire de cette ville donne un bilan provisoire de plusieurs assaillants tués et d'autres capturés après des affrontements avec les forces de défense et de sécurité. Martial Papimukeba pour plus de détails.
5h30, heure locale, des miliciens Mai Mai, porteurs d'armes blanches et affaires répartis en plusieurs groupes, pénètrent dans Butembo avant de se positionner dans les quartiers Mutsanga et Kalimiri, en commune de Bulengera, Katia, à commune de Kimemi et Orompe Malumalu, situé à l'entrée nord de la ville. Selon le maire de Butembo, les assaillants vont tenter d'attaquer plusieurs points stratégiques de la ville, notamment la mairie, avant l'intervention des forces de défense et de sécurité. Il va s'en suivre des violents affrontements d'environ une heure avant que les assaillants ne soient repoussés. Maître Sylvie Kanyamanda donne un bilan provisoire d'une dizaine d'assaillants tués et 3 autres capturés. D'autres sources font état d'un policier tué. Suite à cette situation, toutes les activités de la riposte contre Ebola, qui avait repris hier après 3 jours de suspension, sont à nouveau paralysées depuis ce matin à Butembo, actuel foyer de cette épidémie. La coordination locale de la riposte contre Ebola parle d'une situation due aux contraintes sécuritaires. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Martial Mukeba. Et en Ituri, c'est 4 militaires des FRDC, dont 3 policiers, 3 officiers qui ont été tués ce même mercredi matin par des assaillants. C'était au cours d'une attaque surprise au village de Munganga au bord du lac Albert en collectivité de Baema Nord dans le territoire de Djougou. Le porte-parole de l'armée en Ituri rapporte que ces militaires sont morts pendant les combats pour repousser les assaillants qui cherchent à contrôler la zone côtière du lac Albert. Albert Isaac Rémo pour les détails.
C'est tôt le matin vers 4h qu'un groupe d'assaillants a lancé une attaque contre la position des FARDC à la localité lacustre de Muganga en territoire de Djougou. Des sources locales renseignent que 4 militaires ont été tués. Il s'agit d'un colonel qui est commandant de l'opération de la force navale de Muganga, son adjoint qui est un lieutenant-colonel, d'un major et d'un capitaine. Ces assaillants auraient également emporté des armes et munitions. Le porte-parole des FARDC en Ituri indique que ces hommes armés cherchaient à prendre le contrôle de la côte lacustre pour faciliter leur infiltration. Mais ils ont été repoussés par par des forces loyalistes qui contrôlent la zone. Le lieutenant Gilles Ngongo.
L'ennemi voulait à tout prix puisse avoir le contrôle de Munganga pour faciliter les infiltrations et exfiltrations de l'ennemi. Nous avons défendu cela et au péril de nos vies, nous avons perdu nos hommes. Donc ce n'est qu'un motif de motivation pour les forces armées. Nous sommes arrangés à l'ordre de bataille utile pour les traquer. À l'heure où nous sommes, l'armée contrôle les littorales tout entier.
Les autorités coutumières locales interpellent le gouvernement à prendre au sérieux la situation sécuritaire en territoire des Djougou, où les affres des conflits armés et interethniques de 1999 à 2003 sont encore perceptibles. Signalons que c'est la troisième attaque des assaillants enregistrée en l'espace des trois jours dans la région. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci Isaac Raymond pour tous ces détails. Mohamed Boulé, vous êtes sénateur élu de la province du Bazouélé et vice-ministre honoraire de la Défense. Vous êtes également général à la retraite. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation d'insécurité qui se vit dans plusieurs coins de la RDC?
Merci. Je commencerai d'abord par présenter mes très sincères condoléances aux forces armées pour cette perte, ainsi qu'à la police nationale congolaise. Mais ces opérations qui prennent tout un autre type de surprise, ce n'est pas d'aujourd'hui. Même jour, tous les matins, 4h et 5h30, c'est le quart d'une heure, et les éléments sont surpris. Ce qui est étonnant, qu'ils surgissent immédiatement, ils se déploient vers les objectifs stratégiques. Ils ne peuvent pas s'y déployer si jamais ils n'ont pu faire des reconnaissances. Donc ça suppose que il s'agit maintenant d'un autre type de guerre qu'on peut appeler guérilla urbaine, où les éléments reconnaissent bien leurs objectifs avant et ils s'infiltrent pour occuper les terrains avec la complicité certainement des habitants de là, et il faudrait que les enquêtes qui seront menées parce qu'on a capturé des éléments pour peut-être affirmer ce que je suis en train de dire. Ça veut dire aussi que il faut maintenant, en ce qui concerne les forces armées, que le haut commandement des forces armées, qui a la mission d'évaluation des capacités opérationnelles, puisse voir quel type de procédé auquel nos militaires doivent s'entraîner pour faire face à cela, parce que cela n'a fait que trop durer depuis la transition et jusqu'à présent. Et on parle des résiduels, il y a des pertes en vies humaines, on s'attaque pour s'équiper, pour prendre les munitions, les armes sur nos dépôts ou sur les militaires. Et je crois que parce que on nous dit qu'il y a d'autres éléments à capturer, il faudrait que les services compétents, les services des renseignements militaires puissent investiguer pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste, parce qu'on ne peut pas surprendre les gens dans leurs objectifs. Je comprendrais que ce soit vers les positions ou les zones de refuge que les éléments de défense ou de la police nationale tombent dans les embuscades, mais lorsqu'on vient vers eux, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs que là, les gens, ils ont oublié que nous existons. Et de temps en temps, ils viennent faire des opérations, des publicités, parce que ces pertes en vies humaines, ça fragilise, ça démoralise. Et ça dénote qu'il y a vraiment des négligences dans les services pour sécuriser et mettre les troupes en sûreté.
Pourquoi vous, général Boulet, c'est toujours dans la partie est du pays que ces incursions sont fréquentes?
Oui, d'abord, vous savez, le gouverneur Palouko qui intervient se souviendra, lorsqu'il y a eu concertation, on a évalué pour lister un peu, province par province, au mieux même par territoire, les groupes armés qui existeraient. Et en ce moment-là, moi, fort des éléments que j'avais à partir du quartier général, j'avais donné un chiffre. Et on n'a pas pris ça au sérieux. Et en plus de cela, le contrôle. Lorsque, pendant la transition, il y a ces procédés de DDR, les éléments qui étaient démobilisés n'ont jamais été prises en compte en ce qui concerne le contrôle des effectifs, parce que ce sont les administrateurs du territoire qui sont là pour contrôler les mouvements de population. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, tous les militaires de la force publique qui étaient démobilisés étaient sous contrôle des administrateurs du territoire. Et les enfants soldats qui hier étaient mineurs sont majeurs. On n'est pas étonné que dans les groupes et tout ça, ce sont ceux-là qui sont devenus des commandants sur le terrain et ils savent où frapper et qu'en plus de cela, ils opèrent dans leur zone de prédilection, biologiquement, parce qu'ils sont originaires de là, pour la plupart du moins. C'est comme ça qu'ils connaissent. Ils connaissent comment attaquer, comment s'exfiltrer pour partir. Je suis étonné parce que Djougou, c'est 32 846 km². C'est seulement le littoral qui est très occupé. Et face à cet obstacle, j'aurais aimé entendre, peut-être pour le secret d'opération qu'on ne peut pas me dire ça, que qu'est-ce qui est advenu à 4 heures et à 8 heures, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'ils sont, ils ont pris les hors-bord? Ils ont pris quels moyens pour s'exfiltrer et échapper alors à la poursuite des éléments de défense? C'est cela. Et la tâche revient au haut commandement. C'est le chef d'état-major général qui préside le haut commandement avec un agenda bien précis et à soumettre pour l'approbation au commandant suprême des forces armées. Et je crois que des évaluations, il faut le faire. Il suffit pas seulement d'aller en inspection. Ce sont pas des inspections ordinaires, mais il faut évaluer la capacité. Et j'ai cru entendre que le chef de l'État, lorsqu'il s'est rendu dernièrement à Goma, il a dit qu'il était temps pour relever les éléments des forces armées pour que les troupes fraîchement préparées au combat viennent et aussi mettre les moyens conséquents. Parce qu'une mission en chef des moyens. Si les moyens font défaut, pour rechercher les informations, les renseignements au mieux, c'est cela à quoi il faut. Il faudrait que les hauts commandements militaires prennent les choses au sérieux parce que ça a trop duré. Moi, le 4 mai dernier, ça fait 19 ans que MONUSCO est là, en train de nous assister. Je ne suis pas là pour faire le bilan. Et c'est quand même inquiétant.
Merci Mohamed Boulé, Julien Paloukou, député national élu de Lubero, Nord Kivu. Vous êtes ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment vous expliquez cette situation, Julien Paloukou? Vous avez gouverné la province du Nord Kivu, une province en proie où il y a eu beaucoup d'incursions des groupes armés, où on retrouve beaucoup des groupes armés. Comment vous expliquez-vous cette situation? C'est activisme des groupes armés qui refait surface.
Oui, merci beaucoup. Je pense que le général Mohamed Boulé, que je salue, a peint le tableau de la situation générale du pays. Moi, je crois qu'il y a deux types d'acteurs dans ces cas de figure. D'abord, les acteurs de cette insécurité qui sont connus, qu'il s'agisse du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri. Ce sont les FDLR, les Maïmaï à Koutoumba, les Fouleurs de l'autre côté, les Ignendo au Sud Kivu, au Nord Kivu, ce sont les EDF, les FDLR, et les Maïmaï, Mazembe, YZ, en Ituri, ce sont les FRPI. Donc, au niveau des acteurs de cette insécurité, au moins, ils sont connus. Mais il y a d'autres types d'acteurs qui sont les acteurs qui doivent apporter les solutions. Et là, je les catégorise aussi à deux. Il y a d'abord l'autorité elle-même qui doit apporter des solutions et à travers ses instruments qui sont l'armée, la police, la justice et les services, ensuite la population. Mais j'ai toujours eu l'impression que la population ne sait pas elle-même qu'elle fait partie des acteurs pour construire la paix dans notre pays. Parce que vous imaginez les attaques qui ont lieu par exemple au Sud Kivu, les attaques qui ont lieu à Ituri, et ce matin les attaques de Butembo. Elles sont perpétrées par des hommes et des femmes qui sont peut-être qui sont réveillés quelque part, qui ont passé la nuit dans une maison et qui, à 5 heures, sont venus s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Il faudrait donc que la population commence à comprendre qu'elle fait partie elle-même de la solution à ces problèmes, même si la grande partie des solutions doit revenir à l'autorité de l'État à travers ses instruments, qui sont l'armée, comme je viens de le dire, la police et les autres. Mais là aussi se pose un problème, on a déjà épilogué depuis longtemps sur ça. Est-ce que l'armée est-elle prête aujourd'hui à faire face à toutes ces opérations? C'est oui et non. D'abord oui, parce que depuis un certain temps, l'armée a démontré de quoi elle était capable. Mais également, je nuance la capacité aujourd'hui Parce que depuis que nous avons connu les guerres à partir des années 98, nous avons presque les mêmes types de militaires. Et la moyenne d'âge au sein de notre armée se situe entre 40 et 60 ans. Et donc il est vrai qu'il se pose à ce niveau un problème très sérieux au niveau structurel qui devrait être résolu au niveau de l'état-major général, ce qui appelle à une solution, peut-être nous y arriverons, la solution du renouvellement de notre armée, parce qu'ailleurs dans le monde, lorsqu'on a eu à faire face à ce genre de problème, l'État prend en charge les recrutements pour que au moins nous ayons des militaires dont l'âge est situé entre 18 et 25 ans, sans charge familiale, sans enfants à l'école, sans femmes, qui sont à même de se jeter à l'eau pour devoir restaurer l'autorité de l'État et permettre à ce que finalement la sécurité soit restaurée un peu partout. C'est donc un package qu'on doit mettre ensemble dans notre pays. Il y a beaucoup de piliers sur lesquels nous devons tabler et l'autorité actuelle qui vient de prendre ses fonctions devra comprendre que la faiblesse d'une gouvernance, c'est l'absence en fait de la sanction. Et à cela, je peux même ajouter une autre phrase. Si on veut restaurer la paix dans ce pays en démocratisant la justice, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas qu'on confonde la démocratie ou la démocratisation de l'action, de l'accès à la justice, à la démocratisation de la justice elle-même. Si pour arrêter quelqu'un, on doit commencer à réfléchir pour dire si on arrête les assaillants, si on arrête les criminels, les gens vont dire parce qu'on a un pouvoir démocratique, eh bien on n'arrivera pas à restaurer la paix dans ce pays. Il ne faut pas démocratiser la justice, mais il faut plutôt démocratiser l'accès à la justice. C'est des concepts qu'on doit nuancer pour permettre à ce que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de la population qui est un acteur important pour essayer de trouver la solution à ce problème d'activisme des groupes armés. Est-ce que vous accusez quelque part la population d'être complice de ces groupes armés?
Je ne fais pas une accusation collective, mais je ne nie pas non plus qu'au sein de la population, il y a toujours des repères, il y a toujours des éléments qui collaborent avec des éléments qui déstabilisent. Vous ne pouvez pas vous imaginer que des groupes rebelles existent dans une province sans qu'ils aient des connexions avec un certain nombre de populations. On ne peut pas accuser globalement toute une population d'une province, d'un territoire, d'une chefferie, d'un groupement pour dire qu'elle est complice avec les assaillants. Mais on ne peut pas refuser non plus qu'au sein de ces groupements, de cette chefferie, de cette localité, qu'il y ait des gens qui collaborent. Et c'est cela d'ailleurs qui fait appel à des notions nouvelles que les gens n'exploitent pas souvent. C'est l'économie du conflit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui profitent de certains conflits pour une certaine survie. Et on l'a vu dans certaines crises où, par exemple, les gens alimentent les groupes armés, ça fait un bon commerce. Ça fait qu'il ne peut pas accepter que cette sorte de collaboration puisse être coupée parce qu'ils tirent profit des relations qu'ils établissent entre eux et les rebelles. Et donc, je crois que l'état-major général a beaucoup à faire. La population a beaucoup à apporter. Je vois ce qui s'est passé à Butembo aujourd'hui. Si la population s'élève comme un seul homme pour dire chacun doit contrôler eh bien, à travers un mécanisme qu'on appelait à l'autre époque Nyumbakumi ou Nyumbambili, c'est-à-dire 10 maisons, 3 maisons se contrôlent mutuellement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé comme visité dans telle maison. Ces mécanismes d'autocontrôle, si on les met en place, ils peuvent permettre de relever effectivement tous ces infiltrés au sein de la population et d'empêcher qu'on puisse globaliser étendre la responsabilité sur l'ensemble de la population alliée aux places de certains criminels qui se cachent dans cette même population.
Merci Julien Paloukou. Emmanuel Kabengé, le coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Quelle est votre analyse à vous par rapport à cette situation des groupes armés qui reviennent en force pour s'aimer un peu la désolation au sein de la population?
En fait, avant de porter mon analyse, je souscris entièrement au point de vue de l'honorable Julien et au point de vue du général Tanto. Ça fait quand même plusieurs années que nous revenons sur la même question. Je crois qu'une fois toujours, le général était toujours à côté de moi, toujours dans cette émission, on y est revenu, on revient. Bon, ça devient pratiquement un objet d'inquiétude avec la dynamique actuelle, avec les nouvelles institutions, avec la nouvelle législature. Le général qui est à côté de moi est encore élu, donc félicitations, honorable. Je crois que ce sont encore le point pour moi qui doivent aussi constituer votre cheval de bataille. Le tableau a été décrit, il y a même suffisamment de rapports qui ont eu à documenter, d'autres arrivaient même à des phrases un peu choquantes lorsqu'un de rapports parlait aussi d'une insécurité sécurisée et lorsqu'un de rapports parlait d'une stabilité de l'instabilité. Je crois que ce sont des questions suffisamment préoccupantes, mais qui appellent et qui interpellent.
Une insécurité sécurisée, entretenue.
Oui,
des gens qui préfèrent que cette insécurité persiste.
Mais comment lorsqu'on parle de Mai Mai, en fait, ce sont les milices locales. Ce sont pas, lorsqu'on parle des ADF, on peut comprendre déjà qu'il y ait de présumés groupes armés étrangers, mais lorsqu'on parle de Mai Mai, ce sont les milices locales. Ce sont des gens qui ont un sang présumé, voire un sang congolais, qui d'une certaine manière connaissent et vivent leur réalité quotidienne. Et lorsque ces milices s'en prennent à certains de leurs, donc c'est là que il y a quelque chose qui ne colle pas. Et nous, on se dit qu'il faudrait, et comme le suggéraient si bien mes prédécesseurs, il faut un apport important de la population, un apport important de communautés locales, parce que ce sont les communautés d'une certaine manière qui vivent au quotidien cette insécurité, qui connaissent en fait un peu le rouage, le circuit, et pratiquement qu'au niveau de l'autorité de l'État, qui ait, comme le suggérait tantôt, qui ait une attention plus spécifique à ce niveau-là. Mais l'attention aussi pourrait se faire, parce que lorsque vous voyez l'Est de la République démocratique du Congo, il y a également aussi un problème lié à la difficulté d'accès à certains coins. Et vous avez les routes qui sont coupées par certaines zones de forêt dense. Et l'ennemi en profite pour se cacher dans des forêts denses. Et les groupes armés régulières sont encore habitués à des méthodes classiques. Et alors que maintenant il s'agit d'une guérilla urbaine, comme venait de le qualifier le général tantôt. Et lorsque les gens qui viennent, qui font des incursions et vont pratiquement se cacher, si on ne prend pas d'autres méthodes pour pouvoir traquer ces genres de personnes, on risque de faire ce qu'on peut considérer comme le cercle vicieux. Et là, nous pensons que la gouvernance sécuritaire qui actuelle se doit d'être davantage renforcée, parce qu'il y a deux points sur lesquels nous apprécions une armée. Il y a d'abord le point l'efficacité en termes de sa capacité en termes de dissuasion et sa capacité en termes de traque, en termes de répression. Et si ce point efficacité est là, ne pas là, eh bien nous ne pouvons que nous plaindre. Il y a également aussi le point responsabilité, sa manière d'intervenir sur le terrain, sa manière de répondre aux menaces, sa manière de pouvoir d'une certaine manière faire face aux situations. Mais il y a également un problème aussi de responsabilité qui lie l'armée à la population. Et on s'est dit qu'il y a là aussi une porte ouverte vers un dialogue entre les communautés locales, entre l'armée et les communautés locales, pour pouvoir essayer de cerner ce mystère qui fait que même les milices locales, même certaines personnes qui sont...
Mais je crois qu'il y a eu déjà des dialogues entre l'armée et la population, mais le phénomène ne disparaît pas.
Oui, il y a eu des dialogues, mais le dialogue reste incontournable. Le dialogue reste incontournable. Mais les drames de dialogue, c'est qu'il peut y avoir dialogue, mais c'est aussi la capacité de prise en compte de ce qui est proposé dans le dialogue. Avec le général, je crois qu'on avait eu à participer aux concertations nationales il y a quelques années. Et dans la concertation nationale, il y a eu une cartographie qui a eu à être faite de groupes armés. Donc le problème, c'est que groupes armés datent de plusieurs... Il y a eu une cartographie qui a eu à être faite. On s'est même rendu compte qu'il y aurait des... il y a des groupes armés qui n'auraient que 20 personnes, qui n'auraient que 40 personnes. Et les groupes armés, 20 personnes qui sont sur un territoire d'un État souverain, qui a une armée. Je crois que ça, ce sont...
Comment on n'arrive pas à maîtriser ces gens-là.
Donc ce sont deux problèmes réels qui se doivent d'être bien étudié pour pouvoir riposter à la dimension également aussi de notre armée.
Merci Emmanuel Kabengele. Le général Boulet, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
José Assani Kissou depuis la ville de Bukavu. Il n'y a pas de progrès ou développement sans la paix. L'insécurité non seulement entraîne des morts, mais également les projets restent inachevés, les étudiants n'étudient pas, les agriculteurs abandonnent même leurs champs. Donner une promesse est une chose, mais également la réaliser en est une autre. Il est temps que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenne en main ses responsabilités, car le peuple congolais est en train de l'observer. Après 5 ans, il y aura encore élection.
Le peuple observe le président, il doit prendre en main ses responsabilités. Le président, vous l'avez dit tout à l'heure, a promis de relever les éléments des forces armées qui se trouvent à l'est là-bas. Donc on l'attend vraiment sur cette question.
Mais merci beaucoup. Le président a ses missions constitutionnelles, le gouvernement aussi, au travers certaines dispositions pertinentes de la Constitution, des compétences exclusives au gouvernement central, concurrente avec les provinces et exclusive pour les provinces. Les forces armées, depuis 2011, les forces armées ont connu une modification dans le cadre de la réforme. Il y a cette loi organique et portant organisation et fonctionnement des forces armées. Et aussi, même année, pour la police nationale. Et en 2013, on est venu compléter ces deux lois organiques et par les statuts particuliers des l'armée, des éléments des militaires et de la police nationale qu'il fallait mettre en application. C'est bien vrai. Si on aurait mis en application ces statuts, ça veut dire que, comme elle a dit mon voisin d'à côté, les effectifs aujourd'hui seront assainis de presque 60 à 70% parce qu'il y aurait beaucoup qui sont admis à la retraite. Mais ça tarde à venir. Le recrutement, ce n'est pas non plus au niveau du Parlement. Il y a des instruments. Le gouvernement, c'est sa mission de recruter, de procéder au recrutement, et les forces armées d'avoir les moyens pour former cela. Il y a des commissions permanentes qui sont en province et pour le recrutement. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? On voit les recrues, nous qui partons en vacances, on voit certains recrues à la longueur de patience quitter les camps et rentrer dans leur famille parce qu'ils ne sont pas,
ils sont pas pris en charge.
Pris en charge et tout ça pour les centres de formation. C'est cela. Et cela demande des moyens. Et ces moyens, c'est au gouvernement d'aller rechercher cela. Ce n'est pas à travers le budget ordinaire qui est insuffisant. Il faut une loi de programmation militaire. Il faut, en plus de cela, faire le livre blanc pour tracer des prévisions et projeter qu'est-ce qui doit être fait d'ici 10 ans pour les forces armées. La même chose avec la police nationale. Or, la police nationale a fait un pas parce qu'il y a la loi de programmation pour la police nationale. Mais quant aux forces armées, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, nous attendons cette loi. Dernièrement, les derniers ministres du gouvernement nous avaient dit que c'était en discussion au niveau du Conseil des ministres. Mais à quand? À quand? C'est cela le grand problème. On ne peut pas avoir mis en place les instruments juridiques et traîner les pieds pour faciliter la mise en œuvre de ces réformes. Sinon, c'est non-sens.
Est-ce que vous avez l'impression que cette question est prise à la légère?
Mais écoutez, je ne saurais pas dire ça, mais c'est une négligence quand même assez coupable, cette léthargie. Parce que depuis 2011 et 2013, à ces jours, ça fait combien d'années qu'on attend ces textes-là d'accompagnement? Il y a des efforts qui sont faits pour la mise en place. Les grandes unités, les 3 zones de défense, c'est bien. Mais il faut un accompagnement. Il faut la formation continue. Il faut pour ça préparer quel type de formation va-t-on dispenser à nos éléments des forces armées? Ce n'est pas la même façon avec les éléments d'infanterie par rapport à la force navale, par rapport à la force aérienne. Et là, la force aérienne, il faut des gros moyens aussi. La force navale, la même chose. Même les troupes à pied, tout ça. Mais ces jeunes gens qui vont là-bas, dans quelles conditions ils travaillent? Je connais pratiquement ce pays, pour avoir 38 ans d'Iran à l'armée, je connais les types de terrains auxquels ils font face. Ituri est différent du Graben par rapport à Goma, par rapport à Bukavu. Il faut des équipements spécifiques, il faut des moyens. Là, ceux qui viennent attaquer, je refuse de croire que c'est par ces défilés qu'ils viennent. Ils viennent séjourner dans leurs objectifs. Et les Numbakoumi, qui a parlé le gouverneur tout à l'heure, mais à son temps, ça a aidé. Je suis étonné à Iri. Comment l'AFDL, en 211 jours, a fait la marche des sentiers depuis la prise de la chute de la ville d'Uvira pour venir ici et déboulonner les maréchaux Mobutu. En 211 jours. Et maintenant, ça veut dire que ces jeunes gens qui venaient, ils n'avaient pas aussi les moyens qu'on peut prétendre avoir aujourd'hui. Ils marchaient à pied. Ils n'avaient pas de transport. Mais c'est la population qui les prenait en charge. C'est pourquoi la population, certains connaissent ces éléments. Ils sont leurs enfants, leurs cousins, leurs petits-enfants. Mais ils ont difficile à les dénoncer. Et alors, et les dégâts qu'ils causent, les tueries qu'ils font, ce sont leurs enfants. Et notre justice, c'est parce que les opérations militaires doivent s'accompagner du conseil de guerre opérationnel. Et ce qu'a dit le gouverneur est bien vrai, parce que on a dénoncé beaucoup de choses, que ce soit parce que pourquoi on dit la discipline c'est la mère des forces armées, alors je vois ça à l'entrée du camp Kokolo. Mais il faudrait que cette discipline, c'est une notion rigide. Il faudrait qu'il y ait véritablement la discipline pour qu'on aille de l'avant. Mais il faut rajeunir les effectifs à tous les niveaux.
Comme l'a dit le député Julien Paloukou.
Tout à fait.
On va prendre pour vous, monsieur le député, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Centurion Mayimbu, depuis la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Le président de la République devait commencer par réaliser les promesses de la campagne, telles que délocaliser l'état-major vers l'est de la République. Et selon moi, la lecture que je fais à cette situation est simple, parce que les autorités militaires sont impliqués dans ces affaires, vu qu'ils ont passé beaucoup de temps avec les différents groupes armés, elles ont créé des affinités. Et d'ailleurs, dernièrement, le président avait voulu que ces dernières soient permises, mais nous déplorons jusqu'à maintenant, cette décision n'a pas été prise.
Monsieur le député, il n'y a pas que la population, selon cet auditeur, il y a aussi certaines autorités militaires qui sont complices de ce qui se passe dans le Grand Kivu.
Oui, tout à fait, il a raison.
Je vais vous redonner la parole, Mohamed Boulé, c'est pour les députés Paloukou.
D'accord, merci.
Oui, merci beaucoup, madame. Je crois que l'auditeur a partiellement raison dans son analyse, c'est une analyse qu'il est en train de faire. Il est vrai que le président de la République a annoncé des mesures, notamment la délocalisation de l'état-major, la permutation des hommes de troupes. Mais je crois qu'après évaluation, il pourrait se rendre compte que lorsqu'il s'est... Il a été mis au parfum de ce qui se passe actuellement, parce qu'à l'époque il était candidat, aujourd'hui il est président. Il se rend compte que permettre par exemple 10 000 militaires, ça coûterait un budget qui permettrait peut-être de terminer tout de suite la guerre dans cet espace-là. De deux, je crois que le problème n'est pas dans la délocalisation de l'état-major pour qu'on l'amène à Beni. On peut bien délocaliser tous les généraux, ils arrivent là-bas, et bien rien ne pourra se faire. Moi, je crois que ce que le président ferait actuellement, c'est d'élaborer un plan d'urgence. Un plan d'urgence qui a des piliers, notamment l'insécurité qui doit être au premier plan, parce que quelles que soient les réalisations que le nouveau président de la République fera, notamment construire des routes, construire des hôpitaux, si la nébuleuse insécurité n'est pas attaquée, eh bien, la population n'aura pas l'impression qu'il y a du travail. Moi, je crois que dans le plan d'urgence qui doit être élaboré peut-être sur une année ou deux ans, c'est peut-être de choisir cinq axes, à mon avis. Le premier axe serait des actions fortes pour devoir lancer des opérations un peu partout. Le deuxième axe serait, par exemple, lié au recrutement, comme je l'ai dit, des jeunes gens de 18 à 25 ans. Le troisième axe serait, par exemple, d'ouvrir des centres de formation dans les provinces concernées, au sud Kivu, au nord Kivu et à Nitouri, mais en même temps, le quatrième axe serait l'ouverture des centres de démobilisation et de désarmement, de réinsertion pour ceux-là qui ne voudraient pas bien aller à l'armée. Ils doivent être orientés vers ces centres de démobilisation et de désarmement. Et l'axe concomitant qui devra être dans ce plan d'urgence, c'est la mise à la retraite. J'ai l'impression que beaucoup de militaires ont peur d'aller à la retraite, croyant que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, nous sommes ici avec le général Boulet, qui a été mis à la retraite, mais il parle comme élu. C'est-à-dire, si on met à la retraite ces 50 000 hommes, ces 150 000 hommes ou 100 000 hommes, ça peut nous permettre de renouveler notre armée, d'avoir des jeunes gens sans beaucoup de responsabilités qui n'auront que pour tâche de devoir asseoir l'autorité de l'État. Et je crois que ces différents piliers peuvent aider les nouveaux chefs d'État à pouvoir répondre aux attentes de la population, notamment la sécurisation, la paix, parce que c'est cela que la population attend et non pas autre chose.
Merci Julien Paloukou, Emmanuel Kabengele. On a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Matadi. Je disais qu'on avait une réaction pour vous qui nous vient de Matadi. Je crois qu'on a un souci avec la ligne de l'auditeur de Matadi, mais il y a cet auditeur, Ezra Mumbere Katuta, qui dit ceci: nous ne devons pas chercher à résoudre ce problème en aval, mais plutôt en amont. Je pense que, à part les groupes étrangers, nos jeunes vont en brousse par manque d'emploi. Or, sans sécurité, il n'y a pas d'investissement, donc pas de développement. Ainsi, aussi longtemps que le gouvernement congolais ne créera pas d'emploi pour les jeunes, il y aura toujours ce problème d'insécurité.
Oui, c'est aussi notre paire de manches, le chômage qui engendre en fait des solutions de survie. Et dans les solutions de survie, les jeunes arrivent à se faire des petites bandes d'insécurité pour pouvoir se débrouiller. Mais là que je voudrais beaucoup plus insister, et là je voudrais aller dans le sens du général tantôt, lorsque il a beaucoup plus insisté sur un des instruments qui manque au processus de réforme de l'armée.
Alors, me signale que l'auditeur est en ligne. Excusez-moi de vous interrompre. On va le prendre et puis on revient vers vous.
Adrien, il est passé le bureau à Matadi au Congo central. En voyant comment ce groupe rebelle opère, il y a lieu de conclure à deux possibilités. Premièrement, un sabotage contre l'actuel régime, car n'avons-nous pas entendu sur les chaînes étrangères les signes fils de ce pays dire qu'ils vont se battre pour que l'insécurité soit dans notre pays, afin que les investisseurs ne viennent pas dans ce pays. Deuxième possibilité, c'est une complicité entre notre armée et les groupes rebelles. La solution à toute cette insécurité, à mon humble avis, c'est le relèvement des troupes et aussi de nos commandements.
Voilà, vous avez suivi cet auditeur de Matadi. Qui propose
le relèvement.
Voilà, quelques solutions pour mettre fin à cette situation, entre autres les révèlements, non seulement des commandements, mais aussi de tous les militaires se trouvant dans toutes ces zones.
En fait, c'est une lecture par rapport à la situation. Bon, il peut s'avérer qu'il y ait aussi des situations de sabotage. Il peut aussi s'avérer qu'il y a une complicité, parce qu'on a affaire à des milices locales. Lorsqu'on parle de Mai Mai, c'est en fait un peu beaucoup plus les milices locales. Et là, on peut s'attendre aussi à quelques connexions. Et là, il faut que le service de renseignement puisse bien jouer leur rôle et pour pouvoir d'une certaine manière informer à temps et essayer de proposer des solutions qui vont dans le sens de la prévention. Alors, je voudrais ici revenir sur ce que venait de dire le général tantôt sur un des instruments manquants dans le cadre de la réforme de l'armée. Il parle de la loi de programmation militaire. Il a insisté sur cette loi. Je crois que il attend ça au Parlement. Donc, je crois que ça sera pour la nouvelle législature l'une des urgences. Mais je voudrais aussi insister sur le fait qu'aussi que, et là je parle de l'exemple de la réforme de la police, où il y a une loi de programmation du processus de réforme de la police, mais qui a souffert dans son exécution. En fait, dans le cadre de la loi de programmation, c'est qu'on échelonne les dépenses dans le temps. C'est dit, cette année budgétaire, la loi de finances prend en compte tel montant, cette autre année budgétaire, on peut échelonner sur 5 années budgétaires et chaque loi de finances devait essayer de tenir compte de ces dépenses-là pour pouvoir faire de la réforme une réalité. On a vu avec la réforme de la police qu'il y avait 7 lois de programmation mais qui n'a pas pu être respectée. Le même député, autorité budgétaire qui ont eu à prendre cette loi de programmation, le même lorsqu'ils prennent le budget de l'État, on se rendait compte que en adoptant le budget de l'État, ils ne respectaient pas la loi de programmation qu'on même avait adopter. Donc il y a aussi un problème. Donc même lorsqu'il y aura cette loi de programmation militaire, notre vœu c'est que ça ne soit pas une loi de programmation militaire juste pour plaire, pour dire qu'il faut qu'on ait une loi, mais il faut que ça soit une loi qui sera mise à exécution et que le budget soit réellement décaissé pour que notre armée puisse réellement faire son travail. Parce qu'une fois aussi dans un des ateliers, toujours sur le processus de réforme, un des officiers s'est exclamé en disant « Deux fois nous nous retrouvons avec des rubriques budgétaires et à la fin d'une année on se rend compte qu'on n'a pas eu accès à ces rubriques alors que c'était des rubriques suffisamment budgétisées. Et l'année suivante, on vient, on vous demande de refaire le même budget, de reconduire la même enveloppe alors que l'année antérieure, vous n'avez pas eu accès à cette enveloppe. Ce sont deux questions opérationnelle importante sur laquelle je crois que le contrôle de nos élus pourrait être de mise. Ouais.
Et quelle serait selon vous la solution aujourd'hui pour que la sécurité puisse régner quand même dans ces zones où les groupes armés pilulent et sèment la sécurité?
La solution pour nous, c'est la réussite du processus de réforme du secteur de sécurité. Entendez par là, réforme de l'armée, réforme de la police, réforme de la justice, réforme des services de renseignement. Si ce processus réussit, sincèrement, je crois que on pourra avoir affaire à une armée forte et efficace qui pourrait faire face à un certain nombre de menaces. On pourrait avoir affaire à une police qui sait protéger le personnel air bien. On pourrait avoir affaire à une justice qui sait réellement dire le droit, pas une justice qui a la solde d'un certain nombre de personnes.
Général Mohamed Boulay, ça serait quoi la solution aujourd'hui? Mais on observe quand même que d'un côté, il y a certains groupes armés qui déposent les autres, les armes. De l'autre côté, certains deviennent un peu plus actifs, quoi.
Je crois que la clé de la solution, d'abord, c'est de mettre toutes les institutions en place. Pour le moment, l'institution président de la République est là. En ce qui concerne l'organisation et l'exercice du pouvoir, mais c'est pour le président, c'est des articles 69 à 89. Nous, l'Assemblée nationale, nous sommes déjà là, et le Sénat aussi, au niveau des assemblées provinciales, mais il reste le gouvernement. Parce que pour être à l'aise et d'aborder cette question-là, il faut disposer de tous ces maillons pour la veille et l'anticipation. Le président de la République règle certains problèmes au niveau du Conseil supérieur de la défense. Or, il faut un gouvernement. Il faut un chef de gouvernement et un gouvernement qui soit et donc investi par l'Assemblée nationale que nous attendons de tous nos voeux. En ce moment-là, parce que certains membres du gouvernement font partie de ce Conseil supérieur de la défense, pour l'armée, on va demander au chef d'état-major général de faire l'état des lieux des forces armées et venir proposer des solutions et des mesures idoines pour accompagner et exécuter Merci. La réforme des forces armées. Merci. À ce moment-là, il sera à l'aise et pour faire nous faire la première année de son exercice.
Merci général.
Donc de l'état de la nation.
Julien Paloukou, votre conclusion.
Ma conclusion c'est que il faut qu'on mette les militaires et les policiers dans les conditions d'un homme normal qui doit bien travailler parce que ils ne sont pas des robots. Et là, il faut penser à leurs conditions parce que c'est ça le préalable pour qu'ils mènent très bien les opérations. Deux, il faut que les autorités politiques et administratives organisent des structures d'autocontrôle. Trois, il faut que la justice puisse sévir, parce que sans la sanction à tous les niveaux, militaires et civils, eh bien, ce pays ne sortira pas de là où il est.
Merci, Julien Paloukou. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.